Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance.
Hey, you know what?
Les nouveaux chemins qui sont tous les jours heureux comme Ulysse, grâce à Pierre Folliet, Marianne Chassor, Tristan Grenassia, Antoine Ravon et Géraldine Mosna-Savoie, à la réalisation d'Odyssée quotidienne, cette semaine Nicolas Berger, à la lecture semblable au chant de sirène Georges Kless, avec aujourd'hui à la prise de son intérieure Élise Leu. h 51, c'est l'heure à laquelle vous retrouverez Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillon. Géraldine qui vous donnera envie de lire aujourd'hui Marcel Duchamp et le refus du travail, un ouvrage de Maurizio Lazzarato, publié aux éditions Les Prairies Ordinaires. Le divin Ulysse se couche dans l'entrée de sa maison. Il est étendu, le cœur plein de pensées de malheur pour les prétendants qui, depuis des années, tentent d'épouser Pénélope, sa femme, et qui occupent jour et nuit sa propre maison, dans laquelle il est à présent un vieillard, un mendiant et surtout un étranger. Il entend les rires joyeux des servantes qui ont l'habitude de coucher avec les prétendants et son cœur se soulève dans sa poitrine. Au fond de son esprit et de son cœur, il hésite. Doit-il s'élancer à leur poursuite et les faire mourir l'une après l'autre, ou les laisser encore une dernière, une ultime fois, coucher avec les prétendants orgueilleux? Et son cœur au-dedans de pousser des abois. Marchant autour de ses tendres chiots, la chienne aboie après lui, l'homme qu'elle n'a pas reconnu, animé du désir de se battre, tel en Ulysse, les abois de son cœur, que les mauvaises actions irritent. Mais se frappant la poitrine, il gourmande son cœur en disant « Patience, mon cœur !» Patience, mon cœur, cette petite phrase que l'on trouve au chant 20 de l'Odyssée est une petite phrase qui change tout. Cet appel à la patience le distingue de la colère d'Achille. Ulysse n'est pas un lion, mais un renard. C'est la ruse qui le maintient en vie sur les flots houleux d'une identité qui ne cesse de se dissoudre. Et c'est dans cette phrase que le récit s'enroule pour devenir littérature. Une épaisseur de plus, celle de l'âme humaine, celle du personnage qui devient homme en s'adressant à lui-même. Ulysse ne se prend pas pour un dieu, et c'est ce qui le rend divin. Et c'est à sa suite que nous allons cheminer cette semaine au gré d'une odyssée historique et littéraire qui, tel un kaléidoscope mélodieux, nous chante l'éternel retour d'un personnage qui n'en finit pas d'arriver. Un personnage sans fond, une métaphore sans fin, qui n'est peut-être pas aussi heureux qu'on le croit, pour notre plus grand bonheur de lecteur. Ainsi demain, Corinne Joanneau remontera à l'Ulysse d'Homère pour présenter l'Odyssée d'un personnage à travers la littérature. Mercredi, Didier Ottaviani dressera le portrait parallèle de l'Ulysse de Dante. Et jeudi, c'est Julie Assouli qui vous emmènera sur les pas de l'Ulysse des frères Cohen. Mais aujourd'hui, pour commencer cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir Jacques Aubert, à qui l'on doit l'édition de James Joyce en Pléiade, qui vient vous retracer l'épopée du corps humain qui fait imploser le langage et se demande « When is a man not a man ?» Ulysse de James Joyce.
Tournant le dos au soleil, Stephen s'allongea de tout son long pour griffonner quelques mots. Ça fait 2 fois que j'oublie de prendre les fiches sur la banque de la bibliothèque. Son ombre s'allongeait sur les rochers tandis que lui se courbait, en finissait. Pourquoi pas infini courant jusqu'à l'astre le plus reculé. Ténébreux, il guette derrière cette lumière, ténèbres brillant dans la clarté, delta de Cassiopée, monde. Moi être assis là, avec de l'augure sa baguette de frêne, en sandales empruntées, de jour au bord d'une mer livide, passant inaperçu, parcourant la nuit violette sous l'enseigne d'astres mal dégrossis. Je rejette cette ombre finie, inéluctable modalité de la forme humaine, la rappelle. Infinie, serait-elle mienne, forme de ma forme? Qui m'observe ici? Qui donc lira un jour ces mots écrits, signes posés sur un blanc champ, un jour à quelqu'un de ta voix la plus mélodieuse? Le bon évêque de Cloyne tira le voile du temple de son chapeau de prélat. Voile de l'espace, emblème coloré, assurant le temps. Attends voir. Coloré sur le plat. Oui, c'est bien cela. Le plat, je vois. Ensuite, pense distance, près, loin. Plat, je vois. À l'est, retour. Ah, je vois maintenant. Revient soudain en place, arrêt sur image stéréoscopique. Faut le déclic. Vous trouvez mes mots bien obscurs. L'obscurité, elle est dans nos âmes, non? En plus mélodieux. Notre âme, mortifiée par nos péchés, s'accroche davantage encore à nous. Femme qui s'accroche à son amant plus et encore.
Bonjour Jacobert.
Bonjour.
Bienvenue sur Nouveau Chemin de la Connaissance.
Je vous remercie.
Vous étiez déjà venu il y a 2 ans, je crois, nous parler de Virginia Woolf, dont vous êtes également spécialiste. Et c'est aujourd'hui de James Joyce que nous allons parler. On vient d'entendre un extrait de l'épisode 3 d'Ulysse, qui ne se compose pas de chapitres, mais d'épisodes. Joyce y tenait, de 18 épisodes. L'épisode s'intitule Protée et on y voit Stephen Dedalus qui marche sur une plage et confronté à une épreuve, essayer de déchiffrer le monde qui l'entoure, ce monde ici qui est donc fait d'une plage et de sable et de signes qu'il n'arrive pas à déchiffrer. A priori, aucun rapport avec l'Ulysse d'Homère dont nous parlons cette semaine, Jacobert.
Effectivement, et dès le premier épisode, et après tout même dès le titre, nous avons cette tension entre ce qui se figure, ce qu'on peut se figurer en marge de l'œuvre, en termes d'image, en termes de représentation, et ce qui s'écrit. Et c'est précisément ce que nous invite à faire un passage comme celui-ci, où le thème qui revient, c'est au fond l'envers d'Ulysse, ce qui est du côté, commence-t-il par dire, de l'ombre, et qui se révèle être du côté d'une obscurité consubstantiel, au fond, à l'être humain, celui qu'il essayait de décrire lorsqu'il parle, justement, du personnage qu'il a en tête.
Et ce personnage n'est pas à proprement parler Ulysse, et pourtant la référence n'est pas simplement anecdotique, pas simplement parce que c'est le titre de l'œuvre Ulysse qui fait référence à Homère, mais parce que, également, ces 18 épisodes portent des titres qui rappellent l'Odyssée d'Homère. Il y a quand même de nombreuses références en filigrane avec lesquelles Joyce joue. Donc comment expliquer le choix de se servir littérairement de l'Odyssée comme une toile de fond pour dire autre chose que ce que dit l'Odyssée elle-même?
Alors cela tient, je crois, à un travail de style tout à fait singulier. D'un côté, on a quelque chose qui ressemble à une métaphore. Ulysse serait la métaphore de l'homme, l'homme complet, dit Joyce quelque part à un de ses confidents. C'est-à-dire l'homme qui est mari, père, etc., qui a toutes les facettes de l'être humain. Mais il y a quelque chose d'autre qui précisément tient à cette espèce de renversement qu'opère Joyce et qui consiste à prendre les choses par leur envers, par leur obscurité. Et leur obscurité, elle tient à la lecture. Et c'est pour ça qu'on le tient comme illisible. C'est parce qu'il aborde les choses par les ombres, les fausses ombres, les vraies obscurités, et que, en définitive, la métaphore que suggère le titre, c'est la métaphore, paradoxalement, de la métonymie, c'est-à-dire du déplacement, d'un déplacement perpétuel. On n'est plus dans une métaphore qui serait de l'ordre du déménagement, pour reprendre la traduction du mot grec. Il n'y a pas, en quelque sorte, d'aboutissement. Ulysse est un SDF éternel, c'est un immigré grec dans la culture latine. Et il est sous le signe de la fuite et de l'exil. Et c'est au point qu'à la fin de l'Odyssée d'Homère, court le bruit qu'il va repartir à la recherche des îles Bienheureuses aussi. Donc on n'en a pas fini, on n'en finit jamais avec Ulysse de ce point de vue-là. L'intérêt particulier de Joyce, c'est qu'il se situe, à la différence de bien des écrivains qui se sont intéressés à Ulysse, un moment très particulier qui est au XIXe siècle, l'avènement des sciences de l'homme et notamment de la linguistique. Je voudrais citer rapidement un petit passage de Michel Foucault. À cette époque, le langage a repris une densité énigmatique qui était la sienne à la Renaissance. Mais il ne s'agit pas de retrouver une parole première qu'on aurait enfouie, mais d'inquiéter les mots que nous parlons. Inquiéter les mots que nous parlons. De dénoncer le pli grammatical de nos idées. De dissiper les mythes qui animent nos mots. De rendre à nouveau bruyant et audible la part de silence que tout discours emporte avec soi lorsqu'il s'énonce.
Inquiéter les mots, c'est exactement ce que fait Joyce dans ce texte qui, vous l'avez dit, paraît illisible à bien des personnes, c'est ce qu'on en dit. Or, une fois qu'on y pénètre, qu'on y entre et qu'on se familiarise avec cette langue si particulière, elle est tout sauf illisible, au contraire, ça devient le lisible par excellence.
Voilà. Et alors, et ceci, dès le premier mot, en fait, un des premiers mots qui surgit à la première page d'Ulysse, dans une phrase nominale, lorsqu'il dit « Chrysostomos ». Et là, il décrit, ce mot est appelé par son commensal Buck Mulligan, le fils de famille, prétentieux, etc., qui a des dents en or. Et Stephen Dedalus, le personnage central, là, à cet endroit-là, l'épingle de ce vocable-là par une équivoque assez extraordinaire, parce que il décrit ce qui est utilisé, ce qui le décrit au niveau un peu plus matériel, c'est-à-dire il a de l'or qui fait coupure, qui fait, là on parle de la barrière des dents dans la tradition poétique grecque. Donc c'est une bouche d'or au sens le plus matériel du terme, en même temps ça renvoie à une équivoque qui est dans le substantif même, dans le nom propre, c'est Saint Jean Chrysostome, c'est-à-dire le porteur de la parole de Dieu, et en même temps Dion Chrysostome, le rhéteur. Et allez vous débrouiller avec ça.
Mais c'est vrai que pour parler d'Ulysse, c'est assez difficile, Jacques Aubert, parce que ce n'est pas un texte que l'on peut résumer ni même présenter de manière narrative. Il fait, dans l'édition que vous avez dirigée, qu'on trouve en folio classique, il fait plus de 1000 pages, qui sont divisées par autant par des chapitres, et on l'a dit, 18 épisodes, qui racontent certes des histoires, mais de manière extrêmement fragmentaire. Tout se passe en une journée, le 16 juin 1904. On peut dire que c'est l'histoire d'un adultère, mais finalement, quand on dit cela, on n'a rien dit du texte. Et c'est le premier roman, même s'il est parfois plus proche de la poésie que du roman, à procéder avec cette esthétique extrêmement fragmentaire, où on parle de mots, de personnages, de sons, de bruits, de ce fameux monologue intérieur, sans qu'aucune structure narrative ne vienne tendre la main au lecteur. Et en cela, c'est un renouveau, là pour le coup, littéraire absolument incroyable.
Voilà, et c'est pourquoi je parle de prendre les choses par leur envers. Par l'illisible, eh bien, on peut le prendre effectivement où il faut le prendre, par cette part de silence que tout discours emporte avec lui. Cette part de silence qui peut renvoyer soit à une relecture de ce que nous avons vu, et on a le sentiment, lorsqu'on a le sentiment d'avoir raté quelque chose, mais c'est aussi quelquefois ce qui fait marcher le texte. Il y a un exemple absolument admirable. Deux personnages discutent d'une course de chevaux qui va avoir lieu l'après-midi. Il s'agit de savoir sur qui il faut parier. Et l'un d'entre eux croit comprendre que l'autre a son favori, mais ne le dit pas, qu'il y ait fait allusion. Et un peu plus tard dans le roman, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est celui qui a gagné ce chien et ce cheval est celui qui a gagné. Et donc, le personnage qui a eu ce soupçon dit « c'est bien ça ». Et lui, il s'est fait énormément de fric. Ce salopard, c'est pas surprenant d'ailleurs, c'est un juif, etc. Voilà. Et du coup, ça entraîne toute une scène antisémite, X épisodes plus loin. Et que ça se fonde sur un malentendu total. Le Blum en question n'a pas joué ce cheval. Mais il est acquis parce qu'il est juif, parce que ça, et parce que lui, parce que les autres n'ont pas gagné. Il faut en faire toute une scène. Voilà. Et en termes de production du texte, on voit comment un malentendu imaginaire même, donc un double silence, un silence au carré, conduit à un développement du texte.
His listeners held their cigarettes poised to the earth, their smoke ascending in frail stalks, the flowers of his speech. Noble words coming. Look out. Could you try your hand at it yourself? And it seemed to me that I heard the voice of that Egyptian high priest praying in a tone of light-heartedness and light-pride. I heard his words, and their meaning was revealed to me from the Father. And it was revealed to me that all things are good which yet are corrupted, which neither if they were supremely good nor unless they were good could be corrupted. Hush, you have to look up.
Mon livre est une odyssée moderne. Chacun des épisodes de ce livre correspond à l'une des aventures d'Ulysse. Je suis en train d'écrire l'épisode des Lestrigons, qui correspond à l'aventure d'Ulysse chez les cannibales. Mon héros s'en va déjeuner, mais dans l'Odyssée, il y a aussi un thème de séduction, la fille du roi cannibale. Cette séduction apparaît dans mon livre sous la forme de jupons en soie exposés dans la devanture d'une boutique. Les mots par lesquels j'exprime l'effet que provoquent ces dessous féminins sur mon héros affamé sont « un parfum d'embrasement l'envahissait ». De toute sa chair humble et affamée, montait une muette imploration vers l'amour. Entre autres choses, mon livre est l'épopée du corps humain. Si les personnages n'avaient pas de corps, ils n'auraient pas d'esprit. C'est un tout. Et se dirigeant vers le lieu où il va prendre son repas, mon héros, Léopold Blum, pense à sa femme et se dit « Les jambons de Molly sont disproportionnées ». À un autre moment de la journée, il aurait pu exprimer la même idée sans aucune arrière-pensée gastronomique. Mais je veux que le lecteur comprenne toujours grâce à des allusions plutôt qu'à l'aide de commentaires directs.
France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, Adèle Van Rett.
Jacques Aubert, on a entendu la voix de James Joyce lui-même, lisant un extrait de son texte Ulysse, c'est un extrait du chapitre Éole, on y reviendra peut-être dans le chapitre, c'est l'épisode numéro 7, où on trouve une nouvelle rupture langagière et stylistique au sein de ce texte. Et j'ai lu ensuite une lettre que lui-même adresse à Frank Budgeon, dans laquelle il fait un lien direct entre son texte et l'Odyssée de Homère. Il dit qu'il a une volonté de faire une Odyssée moderne. On trouve à plusieurs reprises cette alliance chez lui entre le mythique, l'atemporel et le trivial, le quotidien, notamment dans et par une sorte d'obsession de description du corporel. Ça va de la nourriture aux organes, hein. Il y a des scènes de défécation qui sont extrêmement précises, des scènes de nourriture également, et puis ce rapport aux organes et au corps que lui-même explicite, et il le justifie avec cette phrase très claire que j'ai lue, « Si les personnages n'avaient pas de corps, ils n'auraient pas d'esprit ». Il y a chez lui l'épopée littéraire qu'est ce texte n'est pas du tout une épopée de l'esprit ou de la pensée. C'est aussi et avant tout une épopée du corps qui peine à se ressaisir lui-même.
Exactement, et d'un corps qui parle, et qui parle dans tous les sens du terme. C'est-à-dire quand on parle justement du monologue intérieur pour simplifier les choses, mais c'est ça. Et ça parle, même lorsque ça ne parle pas. J'en ai donné un exemple, là. Donc, il y a quelque chose qui se dit là, et c'est en quoi, précisément, ce corps parlant, c'est un corps de désir. C'est un corps qui désire des multitudes de choses, qu'il est fait pour désirer, mais qui, en même temps, échoue à la satisfaction, à obtenir la satisfaction totale, celle que la jouissance nous fait fantasmer. Et c'est bien pourquoi il fallait absolument terminer par la jouissance insaisissable de la femme dans le monologue final.
Alors, voilà, sans déflorer le texte, c'est vrai qu'il se termine avec un monologue très long du personnage de Molly, qui est la femme de Bloom, et qui aura commis cet adultère au cours de la journée, cette fameuse journée du 16 juin 1904. Et qui, ce monologue est extrêmement particulier, on en entendra un extrait sans doute plus tard, puisqu'il l'écrit sans aucune ponctuation. Et c'est un monologue qui est très explicite en termes de jouissance sexuelle et qui nomme ce qui pourrait paraître innommable, précisément.
Voilà. Enfin, nomme et ne nomme pas, etc. Parce qu'on est un petit peu dans le « cause toujours ». « Cause toujours », mais ça veut dire que tu laisses quelque chose. Forcément, tu t'imagines que tu es arrivé au bout de la connaissance, du savoir, précisément, sur la satisfaction absolue. Et tu te gourres, fillette. Fillette, c'est-à-dire que tous les hommes sont des fillettes, finalement, à cette aune-là. Voilà.
Mais c'est-à-dire qu'il y aura un lien aussi fort entre l'acte d'écrire, on a vu l'importance que ça prend chez Joyce dans l'extrait qui a ouvert cette émission, et le désir inassouvi du corps, c'est-à-dire que l'écriture serait une manière de nommer cette insatisfaction perpétuelle du corps humain.
Oui, de venir à la place de, effectivement, quelque chose comme ça. Mais pas sans une manifestation du corps telle qu'elle est insaisissable. Et c'est le rôle de la voix. La voix, si la voix joue un rôle absolument essentiel dans l'œuvre de Joyce, et en particulier à partir d'Ulysse, c'est bien à cause de cela, parce qu'elle est insaisissable. D'une certaine manière, le dernier mot d'Ulysse est un piège parfait. Lorsque Molly Bloom dit « oui, yes, oui », sur quel ton le dit-elle? Il y a 100 façons de dire oui. Un ton désabusé, un ton ironique, un ton en quelque sorte négatif. Toutes les variétés sont possibles. Et à cet égard, je pense à ce que, quelques années plus tard, Joyce devait dire à une dame à qui il venait de lire à sa demande une page de Finnegan's Wake. Et la dame dit « Bon, c'est bien, bien joli tout ça, mais c'est pas de la littérature. » Et Joyce dit « Mais c'en était. » Sous-entendu, au moment où je l'ai dit. C'est-à-dire, les lettres et leur silence, et le silence qui, à la limite, est entre elles, c'est la littérature. Et donc, cela ne peut être donné que par la voix, que par une certaine façon de moduler la voix. Et il n'était pas rien du tout que Joyce ait été un chanteur et failli faire carrière de chanteur lorsqu'il avait 20 ans. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que s'il a été second à un concours célèbre irlandais, c'est parce qu'il n'avait pas déchiffré la musique. Il avait simplement improvisé. Et là, c'est faute d'avoir déchiffré, ce qu'il passera sa vie à faire plus tard, c'est parce que quand il sera déchiffré, qu'il atteindra la gloire.
Mais cette entreprise de déchiffrage du monde qui parcourt tout le texte et qui est explicitement revendiqué par Joyce dans sa correspondance, mais qu'on trouve même au sein de chacun des personnages du roman, va de pair. Enfin, cette obscurité que vous nommez, il commence par l'envers, par l'obscurité, par le silence, va de pair avec une mélodie et une recherche de la mélodie, du rythme, comme d'un refrain entêtant qui va revenir, y compris d'épisode en épisode, où le point de vue change, où ce n'est plus le même personnage qui est le personnage principal, où les voix changent. Il a dit avoir voulu prendre pour chacun des 18 épisodes des voix différentes. Et pourtant, une mélodie se construit dans et par l'écriture, au sein de l'intériorité de chacun des personnages. C'est ça qui est incroyable.
Voilà, voilà. Et alors c'est assez intéressant parce que, d'une certaine manière, si on voulait assigner une origine à certains des traits de son art, on pourrait aller chercher dans les lectures qu'il a faites à la fin du XIXe siècle, chez les anthropologues, chez les anthropologues germaniques en particulier, chez Hirn, chez Valachek, chez Bucer, etc. En particulier, je pense à Arbeit und Rhythmus, un travail sur une étude sur travail et rythme qui articule justement le rythme et la parole et la musique. Bon. Et d'une certaine manière, c'est ce qui se passe dans Ulysse, qui fait écho à ce que vous désignez à l'instant même comme typique.
Bronze, près d'or, entendit les fers sabots, cliquetassier, impertunte, tunte. Petite peau, picorant les petites peaux d'un pouce rocailleux, petite peau, horrible, et or rougit encore. Voilà une fifrenote blousa, blousa, blouse, bloom, bleuet, la pyramide des cheveux d'or. Une rose sautille sur les soyeux seins de satin, rose de Castille, trille, trille, idolore. Coucou, qui voit coucou d'or? Dingue apitoyé à bronze, et un appel pur, long et déchirant, appel désimourant. Mon leurre, mots doux, mes voix, pâlissent les étoiles d'or. Ô rose, des notes stridulent une réponse. Castille, voici l'aurore. Cliquetis, cliquetis, cabriolet, cliquette, teinte la pièce, sonne l'heure. Aveu, sonner, pourrais-je, la jarretière se détend, te quitter, clac, la cloche, cuisse, clac, aveu, ardente, mon cœur, adieu.
Voilà un extrait, Jacques Aubert, de l'épisode 11 d'Ulysse, Les sirènes. Alors ici, dans cet épisode, la rupture stylistique qui s'annonçait déjà avec Éole est entièrement consommée, on va dire. Hein. L'heure perd la direction qu'elle semblait suivre. On avait réussi à trouver une direction et là, tout se dissout dans ces personnages. Et là, on y entend vraiment l'espèce de mélodie, de rythme, comme un prétexte musical pour écrire. C'est un jeu avec les mots. On est en 1922, enfin l'ouvrage part en 1922. Mmh. Donc de l'autre côté de la Manche, en France, c'est le surréalisme, c'est un peu après Mallarmé. Il y a surtout ce travail sur la langue qui a été fait. Et là, il arrive au sein d'un roman. Il anticipe ce que, sans doute le travail de Beckett ensuite, Beckett qui était son secrétaire. Et on y lit eh bien, à la fois n'importe quoi et peut-être l'essentiel. Il se dit quelque chose alors même que la langue semble complètement écorchée et ne plus faire sens, Jacques Aubert.
Et oui, et alors... C'est là qu'on retrouve cette question de s'appuyer sur le corps, sur les perceptions du corps, pour faire pièce à ce qui est une espèce de désagrégation par ailleurs. Lorsqu'il dit « je n'ai pas d'imagination, ma tête est pleine de déchets ».
Oui, il passe son temps à dire qu'il n'a pas d'imagination.
Et voilà. Mais il est en train de se reconstituer une imagination à partir du corps, un imaginaire à partir du corps. Et avec des petits bouts justement de perception. Et c'est pour ça que très vite, lorsqu'il défendait son premier recueil de nouvelles, il disait à propos de Dublinois, « Bon, je pense que ça a un sens d'être de ce pays-là. Et je ne peux lâcher un brin de ce que j'ai vu et entendu. » Donc, il n'était pas question de lui enlever un mot, parce que ça correspondait justement à cette espèce de reconstruction d'un imaginaire, l'imaginaire dont il avait besoin, lui, dublinois, par rapport à son Umwelt, à son monde, au monde qui était le seul avec lequel il pouvait vivre, et le seul qui pouvait le constituer d'une certaine manière. C'est pour ça que Dublin reviendra sous une autre forme. Il est dans la ligne de cette idée d'une « ce que j'ai vu et entendu, c'est ça ». C'est ça qui me fait et qui fait Dublin. Donc, double reconstruction.
Oui, Dublin est présent tout au sein du texte, alors par des petites descriptions, des petites touches descriptives qui sont sonores, qui sont olfactives, mais c'est les personnages vont décrire
absolument
ce qu'ils voient, ce qu'ils mangent, et finalement, il y a comme un portrait de Dublin, un portrait extrêmement fragmentaire et impressionniste qui se détache de chacun des épisodes.
Absolument. Et qui justifie d'une façon quelque sorte paradoxale, les schémas.
Alors, dites-nous, parlez-nous des schémas, parce que James Joyce, en rédigeant son texte, a fourni ensuite à ses amis, à certains critiques, des schémas qui seraient là pour donner sens, en réalité, à ce livre qui semblait en manquer aux yeux de ses lecteurs.
Voilà, mais c'est seulement dans la perspective que vous venez de dessiner que ça a un sens. Si on les prend au départ, eh bien, ils vous tombent des mains.
Voilà, alors par exemple, c'est titre, un calypso, scène, la maison, heure, 8 heures, organe, rein, art, économie, couleur, orange, symbole, nymphe, technique, narration, mur, et correspondance, calypso, ithaque, le rappel, sillon. Donc pour chaque chapitre, il établit des correspondances entre la scène, l'heure, l'organe, on retrouve l'importance du corps, la technique, le symbole, comme une grille de lecture pour son texte. Il avait conscience du caractère difficilement pénétrable de son propre texte pour fournir ça.
Voilà. Voilà, mais je pense qu'il s'amuse aussi avec son lecteur et avec la jouissance de son lecteur. Parce que c'est ça le fin mot de l'affaire. C'était au fond sa jouissance à lui, ce qui consistait précisément à jouer avec son lecteur. Et c'est ce qu'il continuera à faire avec Finnegan's Wake.
Alors jouer avec son lecteur et jouer avec la jouissance de son lecteur, il le fait avec brio dans l'épisode 13 qui s'appelle Nausicaa, où il décrit le portrait d'une Irlandaise typique en jouant avec les codes de la littérature, les codes des clichés irlandais. C'est le portrait de Gertie, écoutez-le.
Mais qui était Gertie? Gertie McDowell, assise près de ses compagnes, perdue dans ses pensées, le regard fixé vers les lointains, incarnait incontestablement parmi les beautés de la jeunesse féminine irlandaise le spécimen le plus agréable qu'on puisse souhaiter de voir. Il n'était personne, parmi ceux qui la connaissaient, pour ne pas la qualifier de belle, bien qu'elle fût, distinction qu'aimaient à faire les gens, plus une Giltrap qu'une McDowell. Sa silhouette mince et gracieuse tendait même à la gracilité. Mais ces capsules de fer qu'elle avait prises récemment lui avaient fait un bien fou, beaucoup plus en tout cas que les pilules gynécologiques de la veuve Welsh, et elle éprouvait une nette amélioration à propos des perte qu'il lui arrivait d'avoir, comme à propos de la langueur qu'il lui arrivait d'éprouver. La pâleur de cire de son visage touchait à l'immatérialité dans son ivoirine pureté, alors que sa bouche bouton de rose atteignait, tel l'arc de Cupidon, à la perfection de l'art grec. Ses mains, d'un albâtre finement veiné, présentaient des doigts effilés, et, quoiqu'elles puissent devoir leur blancheur au jus de citron et au roi des onguents, il n'en était pas moins faux qu'elle eût accoutumé d'enfiler des gants de chevreau pour dormir ou qu'elle prît des bains de pied au lait. Bertha Supple l'avait rapporté un jour à Eddie Boardman, mais c'était une calomnie inventée de toutes pièces parce qu'elle était à couteau tiré avec Gertie et elle lui avait dit de ne pas révéler, quoi qu'elle entreprît pour le savoir, que c'était elle qui le lui avait dit ou elle ne lui reparlerait jamais plus. Non, convient de rendre honneur à qui l'honneur est dû. Il y avait chez Gertie un raffinement inné, une hauteur languissamment souveraine qui prenait son éclatante évidence dans la délicatesse de ses mains et dans la cambrure de son pied.
Thank you.
My Wild Irish Rose, le thème irlandais par excellence. Vous écoutez France Culture, le nouveau chemin de la connaissance, il est 10h35. C'est le premier temps de notre série d'émissions consacrée à Ulysse, sur les pas d'Ulysse. Et aujourd'hui, c'est de l'Ulysse de James Joyce que nous parlons en compagnie et en présence de Jacques Aubert, à qui l'on doit l'édition établie en Pléiade des œuvres de Joyce. Alors, il était temps qu'on insiste là-dessus, Jacques Aubert. L'humour chez Joyce et l'humour dans Ulysse, c'est un de ses maîtres mots. C'est un texte qui fait beaucoup rire, beaucoup sourire, c'est sûr, qui fait même rire parfois aux éclats. Alors, je suis pas sûre que ce soit le cas dans le texte que l'on vient d'entendre, parce que finalement, à l'écouter, l'humour n'est pas ce qui saute à la. Enfin, c'est pas la première idée qui vient à l'esprit. On l'entend faire une description d'une femme. Bon, certes, il dit qu'elle prend des pilules et qu'elle blanchit ses ongles dans du jus de citron. Bon, à la limite, c'est pas très drôle. Ça peut paraître un petit peu dérisoire, un peu moqueur, mais pas plus que ça. Alors, en quel sens est-ce que ce texte-là est l'expression de l'humour de Joyce, Jacques Aubert ?
Il est un peu plus du côté de l'ironie. Du côté de l'ironie vis-à-vis de ce Dublin vis-à-vis duquel il n'en finit pas de régler ses comptes. Donc ça c'est bien certain. En fait, il faudrait prendre la totalité de l'épisode pour pousser le commentaire, parce que il y a ensuite une espèce d'exhibition, une demi-exhibition de Gertie McDowell, et puis il y a ensuite une scène de masturbation du héros, Leopold Bloom. Donc si on prend l'ensemble de l'épisode, on s'aperçoit que les choses ne sont pas univoques. Et c'est précisément ce qui se passe au cœur même d'Ulysse, au cœur du style d'Ulysse, au cœur de son fonctionnement textuel. Et de ce point de vue-là, il y a une question qui tout de suite, enfin qui peut quand même venir tôt ou tard, mais qui vient en fait très vite avec le quatrième épisode, c'est que le personnage le plus important qui apparaît maintenant, c'est Monsieur Bloom.
Alors qu'avant, c'était Stephen Dedalus.
Dedalus. C'était d'ailleurs des pages tombées du portrait de l'artiste, etc. Et maintenant, on a M. Bloom. On a M. Bloom qui, à partir de ce moment-là, lui et sa femme, mais surtout elle, entre les mots, devient absolument centrale. Et alors, lui, précisément, il est... en quelque sorte hors scène, dans la mesure où il est supposé être juif, à Dublin, dans un pays qui n'est pas particulièrement hospitalier vis-à-vis des juifs. On ne sait pas trop ce qu'il en est. Il y a un fond d'antisémitisme qui apparaît à un certain moment, mais c'est ça. Mais ce qui apparaît quand même, c'est que d'une certaine manière, il représente un certain fonctionnement textuel aussi. Après tout, Bloom, c'est la fleur, c'est cette fleur dont Aristote disait qu'elle accompagne et qu'elle vient à la suite de la jouissance. Hein, c'est exactement cette espèce de plus de jouir qui, en fait, échappe toujours, bon, et qui, d'une certaine manière, fait fonctionner le texte, précisément. À cet égard, à l'arrière-plan de cette affaire de la judéité, qui n'est pas résolue avec Bloom, dans la mesure où on n'est pas sûr qu'il soit véritablement, totalement juif. On entre, à certains moments, dans le détail, des indications généalogiques que le texte nous fournit, et on s'aperçoit qu'il y a, comme dans le cas de sa femme, un terrible méli-mélo de réalité, de supposition et d'hypothèse qui fait que, après tout, ils sont juifs, enfin, lui surtout, au regard des autres.
Mais c'est là où ils rejoignent sans doute Ulysse, c'est le Ulysse d'Homère qui ne cesse de changer de nom, pour qui le nom est personne, dont l'identité dépend d'une origine qu'il a perdue et qu'il ne sait pas s'il souhaite retrouver.
Voilà, et c'est très exactement ce qui se passe avec, en effet, c'est l'écho de ce Ulysse qui, pour le cyclope, est personne.
Et qui ne cesse de raconter des histoires pour se maintenir en vie, de se déguiser, de se grimer, de se cacher, pour sauver quelque chose de lui. Et finalement, cette réflexion sur le caractère polymorphe, polytrope de l'identité, on la retrouve vraiment de manière très, très évidente au sein du texte de Joyce.
Voilà, c'est au cœur même du texte. Il est au cœur au sens de fonctionnement du texte. Du déplacement. C'est pour ça que je parlais de la fuite, je parlais non pas de la métaphore, c'est-à-dire quelque chose qui aboutit à mettre un signe égal entre deux notions, entre deux faits, entre deux personnes, entre un personnage et une réalité, etc. On est dans une perspective qui est celle finalement aussi du judaïsme envisagé du point de vue du texte, puisque précisément la pire offense qui peut être faite à l'Éternel, c'est d'en avoir fini avec la lecture de son discours. On ne finit jamais la Torah. Et quand on croit l'avoir fini, il faut ménager la reprise de sa lecture. Ça n'est dit nulle part dans Ulysse, autant que je sache. Peut-être, c'est peut-être dit, oui, j'en sais rien. Bon. Mais en tous les cas, c'est cette idée même que, d'une certaine manière, Joyce met en œuvre, installe au centre du fonctionnement. Et oui, la réponse au cyclope, personne. Alors, c'est assez bon parce que celui qui voyait encore avec un œil, c'était encore un œil en trop. Il faut donc le lui crever. Un œil en trop. Il y a toujours un œil en trop, d'une certaine manière. Et ce qui compte, c'est pas du tout, précisément, l'objet vu.
D'ailleurs, Joyce avait une très mauvaise vue et il faisait écrire ses textes par d'autres personnes. L'autre point commun avec l'Odyssée de Homère, c'est que l'Ulysse de Joyce est également un retour, disons, vers un corps, celui de Molly, qui a échappé à Bloom pendant un temps, le temps de l'adultère, le temps de cette journée, qui est le temps de la journée, et qu'il va retrouver. Vous avez beaucoup parlé de jouissance au cours de notre discussion, et la jouissance, elle est aussi, c'est pas seulement la jouissance esthétique, la jouissance d'écriture, la jouissance de lire ce texte, c'est aussi une jouissance sexuelle qui s'est perdue entre ce couple, qui va peut-être être retrouvée. En tout cas, c'est ce que dit Molly dans un monologue dont on a dit deux mots, et qui va peut-être nous aider à conclure cette émission. Vous voulez en dire deux mots avant qu'on l'entende, peut-être ?
Oh, c'était simplement que un des maîtres mots, c'est celui de méprise que l'on a avec Ulysse. C'est-à-dire qu'on croit prendre et on est pris. On croit prendre, mais il y a de la méprise, et en fait, c'est le lecteur qui est pris. Et c'est bien pour ça que Joyce disait « je donne du travail à mes lecteurs pour des siècles ». Parce qu'il les installe dans la méprise et en même temps les invite à poursuivre la lecture, à revenir sur la lecture qui a été méprise, mais qui les a bien pris.
Et c'est ce qu'on entend dans le monologue avec cette voix féminine, puisque c'est quand même à Molly que revient la tâche de clore et donc d'ouvrir à nouveau ce texte.
Voilà. Sur le mode du « si tu t'imagines » aussi.
Le marché aux volailles, toute gloussante devant chez l'Arbicharonne. Et les pauvres ânes qui trébuchaient à moitié endormis. Les vagues gens qui dormaient dans leurs manteaux à l'ombre sur les marches. Les grandes roues des chars de taureaux. Et le vieux château, vieux de milliers d'années. Oui. Et ces Maures, si beaux, tout en blanc, avec des turbans comme des rois, qui vous invitaient à vous asseoir dans leur toute petite boutique, Ronda, et leurs vieilles fenêtres des Posadas. Deux yeux brillants cachés dans un treillis pour que son amant embrasse les barreaux. Et les cabarets, entr'ouverts la nuit, et les castagnettes. Et le soir où on a raté le bateau d'Algésiras, le veilleur qui faisait sa ronde, serein, avec sa lampe. Et, oh, ce torrent effrayant tout au fond. Oh, et la mer cramoisie quelquefois comme du feu, et les couchers de soleil en gloire, et les figuiers dans les jardins d'Alameda. Oui, et toutes ces drôles de petites ruelles, les maisons roses, bleues, jaunes, et les roseraies, les jasmins, les géraniums, les cactus, et Gibraltar. Quand j'étais jeune, une fleur de la montagne. Oui, quand j'ai mis la rose dans mes cheveux comme le faisaient les Andalouses. Où devrais-je en mettre une rouge? Oui, et comment il m'a embrassé sous les murs des Maures. Et j'ai pensé, bon, autant lui qu'un autre. Et puis, j'ai demandé avec mes yeux qu'il me demande encore. Oui, et puis, il m'a demandé si je voulais, oui, de dire oui, ma fleur de la montagne. Et d'abord, je l'ai entouré de mes bras, oui. Je l'ai attiré tout contre moi. Comme ça, il pouvait sentir tous mes seins, mon odeur, oui. Et son cœur battait comme un fou. Et oui, j'ai dit oui, je veux, oui.
Les derniers mots de l'Ulysse de Joyce, le monologue de Molly Bloom, remarquablement interprété ici par Georges Claes, Jacobert, ça donne des frissons rien que d'écouter ce texte-là. Le rapport au corps, à la jouissance, la présence des fleurs, ce monologue féminin, c'est comme s'il y avait déjà Mrs. Dalloway, Virginia Woolf en germe dans ce texte.
Oui, j'y entends aussi quelque chose du côté de l'assomption du rêve. Dans la mesure où au fond, elle est en train de s'endormir aussi. Peut-être est-elle en train de plonger dans le rêve, de commencer à plonger dans le rêve. Et ça serait une façon de signer le travail de Joyce, qui serait de promouvoir le rêve contre le cauchemar. Puisqu'au début d'Ulysse, le jeune personnage, le jeune Stephen Dedalus, parle de l'histoire comme ce cauchemar dont il voudrait s'éveiller. Et je crois que d'une certaine manière, son travail, ce travail d'écriture, il donne en quelque sorte les linéaments du rêve, le mode d'emploi du rêve, la façon dont on peut justement aborder le réel pour contrecarrer quelque chose qui est de l'ordre du cauchemar de l'histoire. Et il est d'ailleurs significatif que, entre les deux guerres, Joyce est restée aux marges du conflit. On avait toutes les peines du monde à le mobiliser contre la guerre parce que pour lui, son écriture, c'était ça qu'il fallait défendre. Et une des rares pétitions qu'il a signées à la fin des années 20, début des années 30, c'était celle-là. C'était, au fond, une pétition pour la littérature, pour l'écriture, laissant de côté ce qui était quand même la tragédie du monde moderne à l'époque.
Thank you.
Merci beaucoup, Jacques Aubert, d'être venu nous parler de Joyce aujourd'hui.
Merci beaucoup de m'avoir donné cette occasion de dire une ou deux petites choses.
Oh ben, une ou deux petites choses, et surtout, j'espère que les auditeurs vous auront entendu. Ce texte n'est pas un texte illisible, je tiens à insister là-dessus. C'est un texte sublime dans lequel on entre comme on peut, effectivement,
mais qui est
une sorte de rêverie, de poème sur plus de 1000 pages et qui va avoir des conséquences sur la littérature qui sont énormes. Alors, grand merci d'être venu en parler aujourd'hui. Alors, je renvoie la lecture de ce texte qu'on trouve traduit et édité sous votre direction, Jacques Aubert, en Folio Classique. C'est avec la rose sauvage et irlandaise Keith Jarrett que nous nous quittons. Vous écoutez France Culture, le nouveau chemin de la connaissance. Il est 10h51. Encore 2 minutes, papillon. Il est l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie qui, comme tous les jours, vient vous donner envie de lire un livre de philosophie qui vient de paraître. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Toute cette semaine, des ouvrages autour de l'art. Et aujourd'hui, le refus de créer, à l'occasion de l'apparition de Marcel Duchamp et le refus du travail de Maurizio Lazzarato, paru aux éditions des Prairies Ordinaires. Dès nos premiers cours de philosophie, on nous apprend à distinguer l'art du travail. D'un côté, une activité qui n'a pour finalité qu'elle-même, sinon le beau, et de l'autre, une activité qui a pour but de produire un objet utile. Derrière cette distinction, il y a surtout un présupposé. Le travail serait une activité aliénante dont il faudrait s'émanciper, alors que l'art serait une activité libre par elle-même. Mais l'activité artistique est-elle si distincte que cela du travail? C'est la question que pose le philosophe et sociologue Maurizio Lazzarato à partir de l'œuvre de Marcel Duchamp dans un ouvrage édité chez les Prairies Ordinaires. Cet ouvrage se compose en fait de 2 parties. La plus longue, qui donne son titre au livre, part de Marcel Duchamp et de son refus du travail. La seconde, plus courte, est une critique de la sociologie actuelle du travail. Eh bien, ce qui unit ces 2 textes, c'est l'idée que l'art ne doit pas être compris indépendamment de son contexte actuel capitaliste, des conditions dans lesquelles il s'effectue aujourd'hui comme n'importe quel autre travail. C'est à partir de Duchamp que Maurizio Lazzarato développe ce point. Son action paresseuse, son refus du travail se prête à 2 lectures. C'est à la fois une critique socio-économique qui vise l'art comme travail salarié, mais c'est aussi une manière de repenser l'action et le temps. La grande leçon à tirer de Duchamp, c'est donc son refus de tout type de travail, même artistique. Le ready-made est ainsi la technique paresseuse par excellence, sans savoir-faire et sans virtuosité. On peut alors se demander ce qui reste du travail, ce qu'on peut encore y trouver. Eh bien rien si l'on suit Duchamp, si ce n'est une activité qu'il faut suspendre pour prôner une paresse, c'est-à-dire une nouvelle manière de jouir du temps au présent.
Merci beaucoup Géraldine, les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée à Ulysse. Et demain, après l'Ulysse de James Joyce, aujourd'hui, demain, retour en arrière avec l'Ulysse d'Homère dans l'Odyssée, mais également ses réécritures avec Corinne Joanneau qui a consacré un ouvrage à Ulysse, Odyssée d'un personnage d'Homère à Joyce justement, paru chez Ellipse en 2013. Et d'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des nouveaux chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques, musicales concernant l'émission du jour. Puis surtout, vous pourrez la podcaster, c'est-à-dire la télécharger, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins, où l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour.